Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous dans ce nouveau numéro du magazine Idée qui interroge celles et ceux qui pensent le monde. Nous n'allons pas prétendre vous dire la vérité, quoique. Mais nous allons en revanche en parler à l'heure des infox et des menaces que fait peser l'intelligence artificielle. Avec notre invitée Gloria Origi, qui est philosophe et nous propose un essai comme nous les aimons, qui donne à réfléchir et qui s'intitule « La vérité est une question politique ». La vérité est une notion politique autant que la justice et la liberté, et cela parce que nos démocraties sont en train de se transformer en technocratie, écrit-elle, et elle s'interroge longuement sur l'existence des experts et le rôle de ceux-ci, désormais. De tout cela, nous allons parler dans Idée, un magazine que vous pouvez retrouver notamment sur votre application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Gloria Origi.
Bonjour.
Je suis heureux de vous avoir à ce micro. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Vous êtes philosophe, chercheuse au CNRS. Vous êtes l'auteur notamment de « Qu'est-ce que la confiance ?»
Oui.
Chez Vrin en 2008, ou un autre ouvrage qui s'intitule « La réputation » au PUF en 2015. Et aujourd'hui, il y a donc ce livre « La vérité est une question politique » chez Albin Michel. Vous me disiez en entrant dans le studio que vous étiez surprise du succès que ce livre avait en France.
Oui, en fait, le livre a été sorti d'abord en Italie. Et en 2022, j'étais très inspirée par le Covid, qui était encore très récent, et la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui avait explosé le 24 février 2022. Donc j'avais proposé un article à un magazine italien sur le thème « Qu'est-ce que devient la vérité au temps de la guerre et du Covid ?» Et puis le thème m'avait fait penser à un petit essai, parce qu'en effet c'était un sujet d'actualité. Mais je ne sais pas pourquoi, la réaction surtout de mes collègues philosophes n'a pas été très, très forte. Donc j'ai pensé à une traduction française. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait un intérêt pour cette tentative que j'ai fait de politisation de la notion de vérité. Voilà, c'est ça ce que j'ai fait dans les livres. J'essaie de montrer comment, à la lumière de faits récents, la vérité devient de plus en plus une notion politique, comme le sont des notions comme justice ou liberté.
Alors, Gloria Origi, on va remonter un peu plus loin encore,
oui.
Parce que cette question de la vérité, vous y réfléchissez depuis au moins 2003, on le découvre en lisant votre livre. 2003, c'est la guerre américaine et britannique en Irak. Et avant la guerre, les mensonges proférés, notamment par les États-Unis à propos des armes de destruction massive supposées en Irak et de l'anthrax même, enfin de produits chimiques hautement dangereux. Je vous propose d'écouter d'ailleurs à ce sujet Colin Powell, qui dirigeait la diplomatie américaine. C'était le 5 février 2003 au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Clairement, Saddam Hussein et son régime ne s'arrêteront devant rien tant qu'ils n'en seront pas empêchés. On sait que Saddam Hussein est déterminé à garder ses armes de destruction massive, qu'il est même prêt à en produire encore plus. Vu son passé guerrier, étant donné ce qu'on sait de ses projets et de ses liens avec le terrorisme, étant donné sa détermination à toujours s'attaquer à ses opposants, doit-on prendre le risque qu'un jour il utilise ses armes à un moment où le monde serait en position de faiblesse ? Les États-Unis ne veulent pas et ne peuvent pas prendre ce risque. Laisser Saddam Hussein en possession d'armes de destruction massive encore plusieurs mois n'est pas une option, pas dans ce monde de l'après 11 septembre.
Alors cette guerre, ce début de guerre en Irak et ce mensonge, ce gros mensonge politique américain, vous a fait réfléchir non seulement à la notion de vérité, mais aussi au rôle des experts.
Absolument.
Dans la définition
c'était,
de cette vérité.
C'était un événement passionnant que j'ai, à l'époque, j'avais reconstruit dans différents articles, parce que d'abord, cette guerre de 2003 contre l'Irak, qui était un choix désastreux des États-Unis, chercher une légitimation, disons, factuelle, épistémique. Enfin, on cherchait à légitimer une guerre, non pas par des valeurs, par exemple, il faut défendre, je ne sais pas, la liberté de qui, parce que l'Irak, en ce moment-là, n'était en guerre avec aucun pays, en fait, donc, mais où il faut voilà, défendre les droits humains. Donc, ce n'était pas au nom des valeurs, chose que normalement, c'est ce qui explique les guerres, les intérêts et les valeurs, mais c'était une guerre basée sur la factualité de la proposition, il y a des armes de destruction massive en Irak. Et l'aller-retour de mensonges, d'incompétence aussi pour chercher la vérité sur ce fait de mensonges et aussi de bullshit, ça veut dire ce demi-mensonge, enfin, où on ne dit pas l'opposé de la vérité, mais on dit quelque chose quand même qui est très loin d'être vrai, et était passionnant. Et à partir de cette base factuelle complètement insuffisante, enfin, on a déclenché pratiquement une catastrophe au Moyen-Orient dont on paye les conséquences encore aujourd'hui. Et le rôle des experts, avant la guerre, disons, était très intéressant. Il y avait des experts de l'Agence nucléaire internationale qui avaient été envoyés pour vérifier s'il y avait des armes nucléaires. Parce que l'hypothèse, c'était bah, justement, l'Irak a des armes nucléaires, ils peuvent les donner aux armes à Bin Laden. Et donc, sur la base de cette hypothèse complètement fragile, ils ont déclenché cette guerre. Mais avant, justement, les experts étaient allés relever ce qu'il y avait là-bas.
Et oui, c'était même des experts internationaux de l'ONU, avec un chef qui n'arrêtait pas de dire « Nous n'avons rien trouvé, voilà. C'était Hans Blix, nous n'avons rien trouvé, nous
Blix,
n'avons rien
bravo.
Trouvé, nous,
voilà.
nous n'avons rien trouvé. Oui. »
Exactement. Et en dépit de ça, enfin, l'intelligence anglaise, les services de renseignement anglais montent un dossier en disant qu'il y a des armes de destruction massive, qui est un dossier basé sur un plagiat. Enfin, il prend du matériel qui est déjà publié par des chercheurs qui travaillent sur le Moyen-Orient et il l'envoie à Colin Powell. Et donc, sans aucune vérification, les États-Unis, Colin Powell prononce ce célèbre discours où il décide d'attaquer l'Irak.
Gloria Origi, nous allons donc parler de cette recherche de la vérité, même de cette notion de vérité. Vous écrivez dès le début de votre livre que la démocratie ne s'est jamais beaucoup occupée de la vérité.
J'écris en général la politique, enfin la vérité, justement, n'est pas normalement considéré une notion politique. C'est ça la thèse un peu contre-courant de mon livre. Pourquoi ? Parce que la politique est le royaume des opinions et on a le droit d'avoir ses opinions, même si on a des opinions fausses, enfin, on a le droit d'avoir les opinions qu'on veut. Et dans plein de domaines, par exemple la religion, enfin, on a des opinions qui ne sont ni vraies ni fausses, enfin, qui sont au-delà de la notion de vérité. On a le droit de les avoir, etc. Et c'est la combinaison selon la théorie politique, de la combinaison de la discussion, du débat collectif qui fait émerger des décisions. Donc la politique est le royaume de l'opinion et de la décision, de l'opinion, du jugement et de la décision. Moi, j'ai certaines opinions sur le monde. Je formule des jugements typiquement, si ce sont des jugements politiques, je les formule collectivement. Et puis, on prend des décisions collectives pour agir, enfin, pour faire avancer les choses. La vérité n'est pas de cette nature. Enfin, la vérité est un concept d'ailleurs assez, même philosophiquement, assez confus. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire exactement lorsqu'on nous disons nous aimons la vérité ou nous, qu'est-ce qu'exactement on a en tête lorsqu'on dit ça? Il y a bien sûr certains domaines de la réalité, comme la science par exemple, qui sont des domaines, disons, qui produisent des vérités. Ça veut dire qu'ils ont des méthodes pour produire des vérités. Et il semble justement que c'est des domaines qui sont très loin du politique. Donc la vérité est quelque chose qui concerne les faits, établir les faits, établir des démonstrations, des théories, des schémas logiques de raisonnement. Et pourquoi devrait-elle toucher la politique? Mais si c'est ça, si c'est comme ça, si c'est la vérité est une notion vraiment extra-politique, pourquoi on parle depuis 8 ans de post-vérité? De quoi avons-nous nostalgie? Enfin, de quelle vérité avons-nous nostalgie qui n'existerait plus?
Donc il y a les vérités scientifiques, mais même les vérités scientifiques sont remises en question. Certains croient encore que la Terre est plate, par exemple.
Justement, certains. Là, moi je suis plutôt pour éviter l'hystérie devant ce type de croyances, etc. Il y a très peu de personnes dans le monde qui croient que la Terre est plate. La plupart des gens croient que la Terre est ronde. Donc,
mais il y en a encore.
Il y en a encore, quand même. Il y en a encore. Et il y en a encore pour plein de raisons. Enfin, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ce qu'on appelle des théories du complot. Les théories du complot ont toujours la même structure qui est du type « on vous dit que ça et ça, mais en fait, la vérité est une autre. Enfin, on vous cache la vérité, on vous ment. Enfin, il y a une espèce de pouvoir, de mainstream, ou les élites, ce que vous voulez, qui vous cachent ce que seulement peu d'initiés savent. Cette structure est très séduisante du point de vue cognitif et émotionnel. Enfin, les gens s'attachent très facilement à ça. Et donc, il y a des... Voilà, le terre-platisme, ça fait partie un peu des théories un peu complotistes. Enfin, on vous cache la vérité sur comment la Terre est faite. Et il fait partie aussi du rejet de tout ce qui n'est pas vérité intuitive. Enfin, moi, je ne vois pas que la Terre est ronde. Je dois raisonner pour voir ça. Je dois ou bien prendre un avion ou bien raisonner sur certaines formules mathématiques. Si je connais la théorie, je peux voir des indices que la Terre est ronde dans le mouvement, par exemple, des planètes dans le ciel, etc. Mais je ne le vois pas. Donc,
Je suis sur la plage et que je regarde l'horizon,
voilà,
qui est courbé.
Qui est courbé, voilà. Là, c'est un indice, mais vous devez connaître déjà que la Terre est ronde, sinon ça ne vous suffirait pas. Ce n'est pas une démonstration définitive, ça ne suffirait pas. Et donc les terre-platistes, c'est encore des gens qui disent, par exemple, on ne se fie que de nos sens, enfin, et nos sens ne nous disent rien sur le fait que la Terre est ronde. Mais comme je vous disais, en fait, moi, ça ne me fait pas particulièrement peur, les terre-platistes, ou en général les complotistes. Je ne vois pas ce que beaucoup de mes collègues voient comme une espèce de monde qui est en train de devenir irrationnel et complotiste.
Vous allez même jusqu'à dire, Gloria, que les fake news n'affaiblissent pas la vérité. Au contraire.
Mais ça, c'est quelque chose que, au fond, je prends au philosophe anglais John Stuart Mill, qui était un philosophe qui a raisonné beaucoup et sur la politique, sur la démocratie.
Sur la liberté.
Et sur la liberté et sur l'épistémologie aussi, ça veut dire sur la compréhension de comment les gens connaissent ce qu'ils connaissent. Et lui, il disait justement dans En Liberté, son essai sur la liberté, disait, ben, au fond, la pluralité de points de vue est très bien, même si certains points de vue sont faux. Pourquoi ? Parce que ça renforce la vérité des points de vue qui sont vrais, parce que ça oblige ceux qui ont des opinions vraies à les revitaliser, enfin, oui. les expliquer, comprendre pourquoi et expliquer aux autres pourquoi elles sont vraies et pourquoi elles sont crédibles. J'avais un exemple, j'avais analysé dans un autre bouquin sur une autre théorie du complot sur l'effet qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Et en fait, j'avais travaillé sur cette théorie du complot. Et c'est incroyable à quel point ceux qui étaient convaincus qu'on n'était pas allé sur la Lune avaient fait bien leur travail de recherche pour avoir des démonstrations qu'on n'était pas allé sur la Lune. Par exemple, l'empreinte du pied de Armstrong sur le sol lunaire. Ils disent que c'est impossible parce qu'il n'y a pas de gravité sur la Lune. Donc, on ne peut pas laisser des empreintes. Ou bien le drapeau qui semblait flotter dans les vents. Et en fait, il n'y a pas de vent sur la Lune. Et donc, si vous voulez, c'était complètement faux, mais la NASA a pris le temps de répondre à ces gens. Et donc, et si je pense, moi, pourquoi je crois qu'on est allé sur la Lune, c'est parce qu'on me l'a dit, mes parents, quand j'étais petite, enfin, j'ai aucun souvenir. J'ai aucune preuve qu'on y est allé. Donc, ce que dit Mille, justement, et ce que je reprends, je dis non, enfin, laissons circuler. Laissons circuler, pas de panique morale devant la fausseté. Laissons-la circuler et apprenons à mieux justifier ce que nous croyons être vrai. Mais il ne faut exclure personne de la conversation.
Suite de ce numéro d'idées consacré à la vérité avec notre invitée Gloria Origi qui vient d'écrire « La vérité est une question politique ». Alors ce qui est évident en lisant votre livre, Gloria Origi, c'est que les philosophes, la philosophie, débat sur cette notion de vérité. On pourrait penser que tout le monde est d'accord sur cette notion de vérité. Pas du tout. Pas du tout.
Pas du tout. Pas du tout. Enfin, ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est que justement, les philosophes se sont un peu lassés de la notion de vérité. À partir de la fin du 19e siècle, si on prend Nietzsche oui. comme point de départ, c'est ce qu'il
disait. Il disait que la vérité, c'est une croyance morale.
Oui, la vérité, c'est de la volonté de puissance. Enfin, c'est du pouvoir. Enfin, c'est vouloir la vérité, chercher la vérité, c'est une forme de volonté de puissance. Si vous arrivez à l'obtenir, enfin, c'est parce que vous avez obtenu du pouvoir. Enfin, c'est du pouvoir sur les autres. Comme la vérité historique après une guerre, c'est la vérité du vainqueur. Enfin, donc, l'histoire sera racontée d'une façon qui dépend beaucoup de qui a eu le pouvoir au moment de la fin de la guerre. Donc Nietzsche déjà se débarrasse de la notion de vérité en disant que c'est une forme de volonté de pouvoir. Mais non seulement Nietzsche, toutes les traditions, enfin, il y a le pragmatisme américain qui dit au fond justement on n'a pas un concept clair de vérité, on a une intuition forte mais pas un concept clair. Donc, on pourrait dire une théorie scientifique est vraie si elle a des bons résultats, des bonnes conséquences sur notre vie. Donc, la théorie scientifique, je ne sais pas, aéronautique telle est vraie parce que, bon, les avions volent, donc ça veut dire qu'elle était une bonne théorie. Enfin, si on avait eu une mauvaise théorie, les avions auraient tombé. Et donc, là aussi, on affaiblit c'est plus du tout un concept métaphysique, ça devient un concept voilà, pragmatique, fonctionnel, enfin, et c'est difficile aussi de l'accepter, parce que qui décide quelles sont les bonnes conséquences ou les mauvaises conséquences, enfin, si on pourrait, avec ce qu'on a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec la bombe atomique, les projets Manhattan, on pourrait dire que les 80% de la science de l'époque a eu de très mauvaises conséquences, comme par exemple les armes atomiques. Donc, qui décide qui sont les bonnes et les mauvaises conséquences? Donc, il y a tout un parcours que je reconstruis assez brièvement, mais au XXe siècle, de scepticisme vis-à-vis de la vérité.
Ah, vous écrivez même, Gloria, que le XXe siècle a cherché à détruire en quelque sorte la vérité.
Oui, en fait, ce n'est pas une propriété philosophique intéressante. Enfin, je veux dire, on ne ajoute rien lorsqu'on dit que quelque chose est vrai. Si je dis « il est vrai que je suis à la radio en ce moment », c'est comme si je disais « je suis à la radio en ce moment ». Avoir ajouté ce prédicat vrai n'ajoute pas grand-chose. Tandis qu'il peut y avoir des concepts qui sont beaucoup plus intéressants, comme celui d'objectivité, par exemple. Est-ce que, par exemple, une réalité, un phénomène qu'on étudie scientifiquement ou historique est objectif, ou il dépend de points de vue des sujets, etc. Donc, moi, je pense que déjà avec Kant, on a, au fond, un passage d'une notion de vérité métaphysique, disons, à une notion d'objectivité, ce qui est
au nom de la raison,
au nom de la raison, ce qui est vrai, ce qui est réel, et ce que je peux observer grâce à mes schémas conceptuels, etc., et qui est objectif. Enfin, et donc, je pense que des concepts comme objectivité ont été plus utiles enfin, que le concept de vérité dans la philosophie du XXe siècle. Enfin, mais justement, pourquoi ? Mais la vérité est un concept fortement intuitif. Enfin, on a l'intuition que les choses sont vraies ou fausses. Ça nous choque d'entendre le faux, d'entendre un mensonge. Lorsqu'on sait la vérité, ça nous choque. Enfin, on a un très fort attachement émotionnel à la vérité. Et ce que je pense, c'est justement pourquoi en 2016, la notion de post-vérité, le terme post-vérité devient à la mode, c'est parce que
Ah, il est même en 2016, Gloria Oggi, oui, inscrit dans le dictionnaire d'Oxford,
voilà,
qui dit ceci, vous le publiez dans votre livre, qui définit donc la post-vérité et dit ceci, l'Oxford English Dictionary, ce qui concerne ou dénote les circonstances dans lesquelles les faits objectifs sont moins influents pour former l'opinion publique que l'appel aux émotions et aux convictions personnelles.
Oui.
C'est ce qu'on appelle la post-vérité. Ça. Mm. Et il fut un temps, il est toujours actuel, Gloria Ruggi, où dire la vérité était dangereux. Je vous propose d'écouter un chanteur français qui a eu son heure de gloire, Guy Béard, et qui a écrit une chanson et chanté une chanson qui s'appelait la vérité et qui a toujours précisément sa part de vérité et d'actualité. Je vous propose de l'écouter et nous continuerons notre conversation après lui.
Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. après sans problème. Parle le deuxième, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. En cœur, ils se taisent, ils sont morts les 13. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le monde doit s'enivrer de discours, pas de vin. Rester dans la ligne, suivre les consignes. À Moscou, un poète à l'union des écrivains souffle dans la soupe où mange le groupe. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté.
C'était Guy Béard, La Vérité. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. À l'époque, quand Guy Béard chantait cette chanson, dans les années 60, Gloria Origi, qui est avec nous, qui avait écrit « La vérité est une question politique », un livre publié, un essai publié chez Albin Michel, à l'époque, personne ne discutait la vérité. C'est-à-dire qu'il y avait la vérité, et la personne qui disait la vérité prenait des risques et pouvait même mourir parce qu'il a dit la vérité. Aujourd'hui, nous avons, nous en parlions tout à l'heure, plusieurs vérités parce que les normes, les schémas, les réflexions sont diverses et chacun, en quelque sorte, via les réseaux sociaux notamment, même un président américain l'a fait, chacun invente sa vérité. Il y a des vérités.
Il y a plusieurs façons de s'engager dans des discours avec des prétentions de vraies et défaut. Les vérités sont multiples. Moi, je pense pas seulement aujourd'hui, elles sont toujours été. Au fond, être vrai est une propriété compliquée, enfin, qui vaut à l'intérieur d'un certain contexte. Il y a très peu de vérités universelles. Il y a très peu de vérités éternelles. Si vous enlevez peut-être quelques vérités physiques, enfin de la physique, enfin, il y a très peu de vérités qui ne changent pas, qui ne sont pas sujettes au contexte. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plutôt que plusieurs vérités, il y a plusieurs discours, c'est que narrations, disons, qui ont une prétention à être vraies et qui arrivent à créer l'adhésion, pour différentes raisons, l'adhésion de plusieurs personnes. Enfin, donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait plusieurs vérités. Je pense que...
Vous écrivez, par exemple, dans ce livre, Gloria Origi, « Dans un monde hyperconnecté, nous trouvons-nous toujours plus sur des planètes différentes, avec des cosmologies diverses et des métaphysiques contradictoires. En somme, nous n'habitons plus le même monde. » C'est ça,
oui.
Une des questions fondamentales.
Oui, ça c'est tout à fait vrai. Enfin, je pense que lorsqu'on, surtout avec les moyens de communication qu'on a maintenant, et une espèce de fragmentation en général d'un contexte partagé, on n'a pas un contexte cognitif, perceptif qu'on partage avec tout le monde, on risque de se retrouver sur des univers qui sont des univers différents. Et d'avoir justement des visions du monde qui sont profondément différentes. Il faut voir aussi quand même pourquoi nous croyons ce que nous croyons, disons, pourquoi adhérer à certaines narrations du monde plutôt qu'à d'autres, etc. Parce que lorsque nous croyons à ce que nous croyons, au fond, justement, là aussi, la vérité compte assez peu. Nous croyons à ce que nous croyons parce que ça nous permet de nous identifier, par exemple, avec un groupe. Ça permet de dire quelque chose sur notre identité. Ça nous permet de donner un contenu cognitif à une émotion qui est déjà là. Si je crois que l'immigration est trop nombreuse en France, probablement c'est parce que je suis en train de donner une forme discursive à un sentiment que j'avais déjà, un sentiment un peu de racisme, de gêne vis-à-vis des gens qui viennent d'ailleurs, etc. Donc on croit pour ces raisons-là beaucoup plus que l'on croit pour acquérir des connaissances et
oui,
des savoirs. Mais la seule chose que je voulais dire, enfin, sur l'histoire de se trouver sur des mondes différents, c'est vrai qu'il y a justement une fragmentation du contexte qui nous fait nous trouver sur des mondes différents. Mais ça ne veut pas dire que tous ces mondes sont équivalents. Enfin, je veux dire, moi, je pense qu'on peut encore construire bien son monde ou le construire vraiment sur des prémices qui sont inacceptables. Enfin, donc, je ne suis pas une relativiste à la fin.
Même dans le domaine scientifique, il y a des doutes, il y a en tout cas des interrogations. Vous écrivez, Gloria Origi, pour beaucoup de penseurs éminents, le choix de privilégier les idées scientifiques n'est pas aussi impartial qu'on pourrait le croire, c'est choisir son camp. Et vous citez Jürgen Habermas, le philosophe allemand, pour lequel les sociétés libérales n'ont pas du tout éliminé l'idéologie. La science, en fait, est une idéologie qui vient soutenir le libéralisme.
Oui. Ça, c'était une position très marquée dans les années 60.
Et, il y avait toute l'école de Francfort aussi.
Aux États-Unis, Paul Feyerabend, il était lui aussi assez... Il disait que la science était justement une idéologie, une préférence idéologique des États libéraux. Enfin, c'est... Et donc, mon livre sert à essayer de comprendre, si je veux comprendre, disons, le rapport entre vérité et politique, il faut comprendre aussi le rapport entre science et politique, ça veut dire entre science et démocratie en particulier. Donc il y a des chapitres qui sont consacrés à ça. Pourquoi ? Parce que les deux choix que nous avons en politique et qui nous font peur en ce moment, disons, d'évolution des démocraties qui nous font peur, sont d'un côté la technocratie, ça veut dire les gouvernements par la vérité. Enfin, les choses sont comme ça. Le climat est en train de changer, donc il faut tous éliminer la voiture. Voilà. Donc, c'est l'expertise qui nous donne les bonnes et les mauvaises décisions à prendre. Ou bien le populisme. Enfin, ça veut dire non, on n'accepte pas une vérité du haut. Toutes les vérités se valent, enfin, et toutes les opinions se valent, etc. Donc, on se trouve en ce moment un peu dans ce risque, enfin, dans ce choix difficile. Les démocraties, en effet, sont devenues en partie, comme disait Jürgen Habermas, des technocraties. Ça veut dire que c'est de plus en plus les experts, l'expertise, les choix qu'on fait, les choix scientifiques et technologiques qu'on fait, investir dans la recherche militaire ou bien investir dans la recherche pour l'écologie, etc. C'est à partir de ces choix-là que la politique s'est faite.
Alors, je vous propose d'écouter une autre voix, celle du président français, cette fois Emmanuel Macron. Là, nous sommes en 2020, en pleine épidémie de Covid. Emmanuel Macron, qui le 16 mars 2020, demande aux Français de se confiner.
J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ses contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nécessaires pour aller faire ses courses, avec de la discipline, et en mettant les distances d'au moins un mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas.
Emmanuel Macron annonçant donc le confinement des Français en mars 2020, ça nous rappelle de sombres souvenirs. Et à l'époque, il y a eu un grand débat sur le pouvoir des scientifiques, sur les politiques, un grand débat sur la relation entre la politique et le savoir. Grand sujet de réflexion cher à Foucault, à Michel Foucault, le pouvoir et le savoir. Et là, il y a eu un débat sur même la vérité de l'épidémie.
Absolument. Et disons que c'est vraiment ce débat pendant le Covid qui a été la source d'inspiration pour écrire ce livre, parce qu'on avait rarement vu la science s'approcher à tel point de la politique, et on avait vu rarement les relations entre science et politique si entremêlées. Bien sûr, moi j'avais travaillé sur la confiance, sur d'autres thématiques qui étaient particulièrement intéressantes à ce moment, parce que la question était à qui se fier, enfin, qui sont les experts, comment ils sont nommés, pourquoi eux et pas d'autres. Comment prend-il des décisions? Enfin, quel est nous, on sait comment le Parlement discute, avec quelles règles, etc. Mais une commission d'experts, est-ce qu'on sait si c'est à la majorité, si c'est à l'unanimité? Comment ça marche, une commission d'experts? Et donc, on a, avec des collègues en Europe, un peu partout, on a un peu travaillé vraiment ces questions d'un point de vue pratique. Enfin, ça veut dire, qu'est-ce que la décision scientifique et de l'expertise? Comment elle est faite? Sur quels critères sont nommés les experts dans les comités qui étaient partout en Europe? On a fait même un travail assez amusant de comparaison entre les comités italiens, les comités français, les comités britanniques sur ces cas. Et en fait, c'était très intéressant parce que les mécanismes, enfin, de sélection étaient très différents. Le prestige des scientifiques impliqués était très différent. Et la façon, par exemple, de informer les gouvernements et les citoyens, c'était très différent. Donc, en fait, là, on a vu vraiment la science hyper exposée à la politique, et ça nous a permis aussi de voir que science et politique sont deux domaines très différents, mais sur certaines choses, se ressemblent beaucoup. Ça veut dire, par exemple, dans leur structure de décision. Enfin, il faut, pour prendre une bonne décision scientifique, ça veut dire établir un fait, il faut une certaine transparence, il faut un certain format de discussion, il faut que la science en question soit... se rend compte du contexte dans lequel il est en train de prendre des décisions.
Oui, parce que vous écrivez, Gloria, si en tant que citoyen, nous ne pouvons entrer dans les détails du fonctionnement d'un algorithme de surveillance des réseaux, nous sommes au moins compétents pour décider dans quel type de monde nous voulons vivre. Oui. Le rôle du citoyen en la matière est important.
Oui, moi je suis tout à fait contre à ceux qui disent qu'on est... rentrer dans une ère où les gens sont devenus idiots en masse. Enfin, je pense que les gens sont, ou bien ont toujours été idiots ou bien n'ont jamais été idiots. Je suis plutôt pour le deuxième...
La deuxième donnée.
Voilà. Ça veut dire qu'on a des intelligences à peu près toutes pareilles, enfin, qui sont plus ou moins orientées dans la plupart de notre temps à la résolution des problèmes pratiques, enfin, agir, acheter à manger, trouver un boulot, faire des choses pratiques. Enfin, donc, notre intelligence plus théorique est très peu sollicitée dans la vie quotidienne. Mais je pense que la responsabilité de cette espèce un peu de crétinisme collectif, c'est beaucoup plus sur comment les gens sont informés et comment, par exemple, les réseaux d'information aujourd'hui sont organisés que dans la il n'y a rien qui a changé dans la cognition des gens dans les derniers millions d'années. Enfin, ouais. Donc...
Alors, d'où l'importance des experts dans tous les domaines, leur sélection, leur réputation, voilà. Tout ça est au cœur de votre livre, leur expertise précisément, mais ça, apparemment ça ne va pas de soi. Et pour terminer cette émission, Gloria Ruggi, il faut s'arrêter sur ce que vous préconisez pour faire face à ces fausses vérités, ces vérités alternatives, ces infox. Ce que vous appelez, ce que l'on appelle la pensée critique. La pensée critique est un courant, nous rappelez-vous, de pensée pédagogique qui vise à développer les capacités critiques des personnes. La pensée critique.
Alors, dans le livre, je dis bien sûr, enfin, une des réactions aux infox et a été justement d'essayer de créer des esprits, enfin, à travers la pédagogie, l'éducation, plus critiques et plus capables donc de sélectionner l'information vraie de l'information fausse à partir de critères différents. Je suis tout à fait positive avec les réformes qui ont été faites en ce sens pour insérer la pensée critique dans l'enseignement, enfin, déjà du primaire, je pense, mais sûrement du secondaire. Mais ce que je dis quand même pour conclure, on ne peut pas faire peser sur les cerveaux individuels le poids de ce tsunami informationnel que nous sommes en train de vivre. C'est au niveau des institutions, c'est au niveau des institutions du savoir, enfin, par exemple, de qui gère aujourd'hui les réseaux sociaux, le fait que toutes ces sources d'informations soient gérées avec des règles qui sont seulement du type de profit, etc., et non pas de maximisation de la vérité, de la connaissance. Donc je pense que l'Internet qu'on connaît aujourd'hui, est un épisode de l'Internet. Enfin, on a connu d'autres formes d'Internet au début et on connaîtra bien sûr d'autres formes. Donc je pense que les infox et tout ça sont vraiment un peu un produit, non pas de la crédulité des gens, mais du modèle économique qu'il y a derrière, le rapport entre public et privé et tout ça, que le problème sera résolu.
Pour créer, dites-vous, un climat cognitif.
Oui, voilà. Enfin, des formes, ça, tout ça, c'est des formes de transmission du savoir qui peuvent créer de l'intelligence collective. On est en train de créer de la stupidité collective, mais ce n'est pas parce que nous sommes bêtes, mais parce qu'on a des systèmes qui sont projetés, dessinés d'une façon qui n'optimise pas nos capacités cognitives.
Et c'est d'autant plus important que l'intelligence artificielle ne va faire qu'accentuer la menace.
Absolument.
Hein, merci Gloria Origi. Votre essai s'intitule « La vérité est une question politique ». Il est publié chez Albin Michel. Merci d'être
merci
venu
beaucoup
dans cette émission. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Retrouvez-nous aussi sur l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde après Gregory Porter et sa chanson « La vérité vraie ».
You can leave your ego at the door. When you come inside, you won't need it no more. This is no hour of make-believe. Open your mind and you receive the real. Everybody now can live a lie. Take it as the word you dare not ask why. This is no hour of make-believe. Open your heart and you receive the real, the real. You can leave your ego at the door. When you come inside, you won't need it no more. This is no hour of make-believe. Open your mind and you'll see the real, the real. Everybody now can live a lie. The word and you never ask why. This is no hour of make-believe. Open your mind and you